Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant que de commencer ce cours, dans lequel j'espère terminer le chapitre 22 de Saint-Luc, je voudrais m'excuser pour parfois du retard qui a lieu avant que la vidéo de la messe du dimanche soit utilisable sur YouTube. Je ne fais pas toujours ce que je veux parce que je n'ai pas beaucoup de connaissances en électronique et je suis obligé d'utiliser l'aide d'amis qui me permettent de tout placer sur Internet. Donc je prépare le fichier et ensuite c'est eux qui font les manipulations pour tout mettre sur Internet. J'essaye d'apprendre pour le faire moi-même parce que ces gens qui m'aident sont des gens qui sont extrêmement occupés. Ils ont une activité professionnelle intense, une famille, etc. Ils n'ont pas toujours le temps à disposition et d'être à ma disposition quand j'en ai besoin après les messes du dimanche. Donc parfois il y a un peu de retard, je vous prie de m'en excuser. J'essaye dans toute la mesure de possible d'avoir la messe du dimanche en vidéo sur le YouTube, la chaîne YouTube, vers 1h de l'après-midi. Pardonnez-moi si parfois il y a un peu de retard. C'est pareil, la semaine dernière, j'ai eu pas mal de difficultés pour pouvoir mettre un des sermons sur la chaîne audio, YouTube audio, la chaîne Dame Marie. Et là, encore une fois, je m'excuse, mais je fais ce que je peux. Donc, prenons le chapitre 22 de Saint-Luc. Je vais essayer de terminer aujourd'hui, je pense y arriver. Nous en sommes sur les polycopiés des trois derniers chapitres. Les quatre derniers chapitres de Saint-Luc, 21, 22, 23, 24, à la page 13. Nous en sommes au verset 43. Donc, nous sommes maintenant en plein dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai expliqué la dernière fois qu'il y avait, en notre Seigneur Jésus-Christ, attention, une double volonté, une double intelligence. On voit très bien dans le verset 42, « Père, si vous voulez, éloignez de moi ce calice, cependant que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la vôtre. » Il y a donc une double volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Une volonté humaine, une volonté divine. Pourquoi? Parce qu'il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. De même qu'il y a en lui une double intelligence, une intelligence humaine, une intelligence divine. Donc en tant que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ savait tout, mais il avait aussi une intelligence humaine. Il avait une intelligence expérimentale qu'il a développée comme tous les hommes. Parce qu'il n'était pas simplement Dieu, il n'avait pas simplement, il n'était pas simplement Dieu, il était aussi homme et parfaitement homme. Donc dans ce verset, voilà environ les versets 43-46, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, et étant tombé en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui coulaient jusqu'à terre. S'étant levé après sa prière, il vint à ses disciples, et il les trouva endormis de tristesse, et il leur dit, pourquoi dormez-vous, levez-vous et priez, afin que ne succombiez pas à la tentation. Donc on voit ici, ce que j'ai déjà un petit peu expliqué au dernier cours, c'est quelque chose d'extraordinaire, ce qui prouve vraiment l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit que notre Seigneur Jésus-Christ va tomber en désolation, son âme va devenir triste à en mourir, dit un autre texte parallèle. Donc c'est la première chose extraordinaire, notre Seigneur Jésus-Christ, créateur du ciel et de la terre, qui tombe en désolation. Alors si notre Seigneur est tombé en désolation, ne soyons pas étonnés si vous et moi, mes bien chers frères, nous sommes souvent en désolation. C'est inévitable. La deuxième chose qui est extraordinaire, c'est que Dieu va demander à une de ses créatures de venir consoler le Créateur. Donc un ange du ciel apparut à notre Seigneur pour le fortifier. Donc les pères se sont posé la question de savoir comment cet ange a pu fortifier notre Seigneur, a pu le réconforter. Imaginez que vous soyez envoyé par Dieu pour réconforter Dieu le Fils qui souffre en son humanité à Gethsémani. Qu'est-ce que vous lui auriez dit? Je ne sais pas si j'ai déjà expliqué ces choses-là. Je m'excuse si je me répète parfois, mais comme je fais ces cours avec parfois plusieurs jours d'intervalle, je ne sais plus très bien ce que j'ai déjà expliqué. J'essaie de le noter, mais parfois je ne note pas tout. La tradition dit que pour consoler, réconforter notre Seigneur, l'ange qui était vraisemblablement l'ange Gabriel, le même ange qui est apparu à la Sainte Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle allait devenir la mère de Jésus, l'ange a réconforté notre Seigneur en lui présentant l'image de l'âme de sa mère. Évidemment, en voyant la beauté extraordinaire de l'âme de la Sainte Vierge Marie, il en a été tout rigaillardi. J'ai entendu parfois des catholiques qui disent que la plus belle création de Dieu, c'est l'âme de la Sainte Vierge Marie. C'est faux. La plus belle création de Dieu, c'est l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi créée. L'âme de notre Seigneur Vierge Marie est extraordinairement belle, mais l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ est encore plus belle. Bien que ces deux âmes soient créées, rappelez-vous, j'ai déjà souvent expliqué ça, c'est des choses desquelles il faut que la doctrine soit claire, que notre Seigneur Jésus-Christ, bien qu'étant Dieu, a en lui des choses créées. Ce serait hérétique que de nier qu'il y ait en notre Seigneur Jésus-Christ une âme et un corps créés. Donc on peut même dire que la très sainte Vierge Marie a été créée avant l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. De tout temps, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu avait choisi la très sainte Vierge Marie pour devenir un jour la mère de la deuxième personne de la Sainte Trinité en son humanité. Et la très sainte Vierge Marie a été créée 14 ans ou 15 ans avant la création de notre Seigneur Jésus-Christ en son sein. Donc lorsque notre Seigneur Jésus-Marie a donné son fiat, et bien à ce moment-là, en quelque sorte, elle a littéralement, par la beauté extraordinaire de son âme, qui était Immaculée Conception, elle a attiré, fait descendre du ciel Dieu qui a envoyé donc son propre Fils, qui est Dieu lui-même, la deuxième personne de la Sainte Trinité est véritablement Dieu, qui s'est incarné. Donc, cette incarnation, c'est l'association en une seule personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité, d'une humanité parfaite et d'une divinité parfaite. Et ensuite, c'est très beau, comment comprendre ça, plusieurs années plus tard, notre Seigneur Jésus-Christ va en quelque sorte renvoyer, comme on dit vulgairement, renvoyer l'ascenseur à notre Sainte Vierge Marie, et après la fin du cours de sa vie terrestre, donc, notre Seigneur du haut du ciel va l'attirer vers elle. Donc, le 25 mars, jour de l'Annonciation, Notre-Dame fait descendre notre Seigneur Jésus-Christ du ciel en son sein, en ses entrailles très saintes, et donc elle devient véritablement tabernacle du Très-Haut. Et elle va conserver en son sein pendant 9 mois notre Seigneur Jésus-Christ, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, jusqu'à la naissance, le jour de la fête de Noël, le 25 décembre. Et au jour de, soit de sa mort, soit de sa dormition, ça l'Église n'a jamais prononcé là-dessus, à la fin de sa vie terrestre, donc la très sainte Vierge Marie va être attirée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui va l'élever de terre avec son corps et son âme. La très sainte Vierge Marie est au ciel avec son corps et son âme, par la fête de l'Ascension au 15 août. Donc attention à bien se soumettre à la doctrine de la foi catholique. On entend aussi d'autres bêtises sur ce sujet qu'il faut absolument éviter. Il faut bien s'humilier et suivre ce que l'Église catholique a toujours enseigné. J'ai entendu parfois des catholiques qui disent que puisque le dogme de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie a été décrété par le pape Pie XII en 1950, donc il a en quelque sorte inventé ce dogme. C'est totalement faux. Le pape n'invente rien du tout. Le rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi. Donc le dépôt de la foi catholique contenait déjà le dépôt de la foi catholique. Nous n'oublions pas être clos à la mort de Saint Jean à la fin du 1er siècle. Le dépôt de la foi catholique, clos à la mort de Saint Jean, contenait déjà le dogme de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. J'avais pour preuve que si vous prenez un ancien missel beaucoup de nos fidèles ont des vieux missels dont le fait, par exemple, donc certains datent des années 30 ou 40, donc avant la fête de l'Assomption à la Très Sainte Vierge Marie. Et si vous regardez au 15 août, bien vous verrez qu'il y a déjà une fête de la Très Sainte Vierge Marie dans son Assomption le 15 août. Ce n'était pas encore dogme de foi, mais c'était déjà célébré. En fait, c'est une des fêtes les plus anciennes de la Très Sainte Vierge Marie qui remonte au 6e siècle. Et donc revenons à nos moutons ici, revenons à notre sujet. Donc un ange du ciel apparaît pour le fortifier. Donc je ne trouve rien de mieux que de aider notre Seigneur à lutter contre ce découragement. Ce découragement était, disent les pères, provoqué par une vision que le démon avait proposée à notre Seigneur Jésus-Christ pour essayer de le décourager au maximum. Le démon proposait à notre Seigneur Jésus-Christ une vision de ces millions et millions d'âmes qui allaient se damner. En gros, il disait, tu meurs pour eux, mais tu perds ton temps, parce que de toute façon, c'est moi qui vais les récupérer, parce qu'ils m'appartiennent, ils se sont tous donnés à moi, et c'est moi leur maître. Donc ils meurent, et c'est moi qui vais les avoir en enfer. Évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ, humainement parlant, est tombé en agonie. Et donc, l'ange envoyé par Dieu pour le réconforter va lui présenter l'image de l'âme de sa mère. Imaginons deux secondes, il faut méditer là-dessus, la beauté extraordinaire de l'âme de notre Sainte Vierge Marie. Imaginez une âme qui n'a jamais été touchée, même de loin, par le démon. Ça m'a toujours beaucoup frappé dans l'évangile de voir que notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, a accepté d'être touché physiquement par le démon, puisque le démon l'a pris, l'a porté au sommet du temple, et l'a pris encore, l'a touché donc physiquement pour le mettre au sommet de la montagne, dans le triple tentation. Eh bien, Dieu n'a pas permis que sa mère soit touchée par le démon. Oui. Alors, c'est cette sueur qui devient comme des gouttes de sang, j'en ai plus si j'ai déjà expliqué, je reviens rapidement à ça parce que c'est une chose importante à comprendre, ce qu'on appelle l'hématodrosis. L'hématodrosis est une vasodilatation des capillaires subcutanés. Et ces capillaires sont extrêmement fins, il y en a qui sont, c'est une espèce de maillage sous l'épiderme. Sous le derme même, qui permet la vascularisation des muscles et surtout permet les échanges gazeux, l'apport de l'oxygène qui est amené par le sang, par les hématies du sang, les globules rouges du sang, donc qui vont apporter l'oxygène nécessaire aux muscles pour permettre la transformation aussi des sucres en énergie. Et lorsque quelqu'un est sous stress très fort, ce qui est le cas de notre Seigneur à cause de la flagellation, à cause qui va arriver, à cause de ce stress moral, parce qu'il sait très bien, il est Dieu, il sait tout, donc il voit très bien ce qui va se passer. Donc notre Seigneur, bien qu'il n'ait pas encore été touché par ses ennemis, voit la flagellation, le couronnement d'épines, le chemin de croix, la crucifixion, il voit tout ça. Et donc ça va stresser énormément, parce qu'il est vraiment homme. Et donc cela va provoquer une augmentation de la pression cardiaque, la fréquence cardiaque également. Donc le cœur va se mettre à augmenter de volume, et même avec ça, va non seulement augmenter de volume, mais va augmenter d'intensité, de fréquence. Donc la fréquence cardiaque va augmenter, la force, la tension cardiaque va également augmenter, ce qui fait que dans les petits capillaires en bout de réseau, qui sont microscopiques, on les voit qu'au microscope, donc la pression artérielle va être telle, dans ces petits vaisseaux qui sont des membranes hémiperméables pour permettre les échanges gazeux à partir du sang, passer à travers les parois des capillaires. Donc la pression va être telle que certains de ces petits vaisseaux vont éclater, le sang va sortir du système circulatoire, va se mélanger avec la sueur produite par les glandes sudoripares en surface de la peau et va sortir par les pores de la peau sous forme d'un mélange de sang et de sueur. C'est pour ça que Saint-Luc, qui était médecin, a bien noté que c'était des espèces de thromboses, c'est-à-dire des cailloux de sang. Donc il ne faut pas imaginer un sang liquide qui coule des pores de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui coulaient jusqu'à terre, et c'est Saint-Luc qui va justement préciser, parce que lui est médecin, il précise bien ces choses-là, en fait, ces gouttes de sang sont des cailloux de sang, un mélange de sueur et de sang. Donc il y a aussi ce troisième point, c'est le verset très important, 43-46. Levez-vous et priez afin que ne succombiez pas à la tentation. C'est une phrase que notre Seigneur Jésus-Christ a déjà prononcée plusieurs fois au cours de l'agonie au Jardin des Oliviers au début. Plusieurs fois, il va le dire aux apôtres. Veillez, priez afin de ne pas entrer en tentation, parce que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et là, il répète la même chose. Levez-vous et priez afin que vous ne succombiez pas en tentation. Quand nous sommes tentés, il faut se lever et prier. Hein. Veillez et priez. La veille, c'est le symbole de la pénitence. La prière est aussi nécessaire. Donc, dans les moments difficiles, les moments de tentation, les moments de découragement, Dieu sait si par les temps qui courent, les catholiques sont exposés à ces tentations, il faut se lever, prier, veiller. Donc, il faut se lever, se mettre au pied de la croix, et là, prier et veiller. C'est-à-dire faire pénitence et prier. La prière et la pénitence sont les deux grands moyens de lutte contre les tentations. Et on parle des moyens dont les pères d'Église parlaient beaucoup plus que nous. J'ai déjà expliqué, le père de l'Église parlait beaucoup de ces trois choses, la prière, le jeûne et l'aumône. Il poussait beaucoup, beaucoup plus qu'aujourd'hui. On poussait beaucoup dans l'ancien temps les catholiques à ces trois choses, prière, jeûne et aumône. Prière contre la concupiscence de l'orgueil, jeûne contre la concupiscence de la chair et aumône contre la concupiscence des yeux. Voyons un petit peu ce que disent les pères sur ces versets, page 13 du Polycopier. Nous avons donc ici une preuve de sa double nature dans ces anges qui tour à tour le servent et le fortifient. Car le Créateur n'a pas besoin du secours de ses créatures, mais s'étant fait homme, il a voulu être fortifié. Pour notre instruction, de même qu'il s'est soumis à nos tristesses par amour pour nous. Donc il devient homme comme nous. Et donc, puisqu'il est devenu homme comme nous, il nous a imités en tout sauf le péché. Donc il va y avoir cette tristesse, cette attraction vers un découragement. Mais tout de suite, notre Seigneur va soumettre cette tristesse humaine à la volonté divine. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, Seigneur, mais la vôtre. Quant à moi, non seulement je ne crois pas devoir excuser ce sentiment, mais nulle part je ne trouve plus à admirer sa miséricorde et sa puissance. En effet, la rédemption de notre Seigneur, disent les pères, eût été beaucoup moins avantageuse s'il avait pris sur lui toutes nos passions, toutes nos faiblesses, car il a pris ma tristesse pour me communiquer sa joie. C'est avec confiance que je parle de la tristesse parce que je suis prédicateur de la croix. Hein? Donc, tantôt Seigneur Jésus-Christ se rappelle à notre bon souvenir, en quelque sorte, il nous dit, quand nous commençons nous aussi à tomber dans la tristesse, dans le découragement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut se placer en esprit à la flagellation, à l'agonie au jardin des Oliviers, et se rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé jusqu'à la tristesse de la mort. Mon âme est triste à en mourir, justement pour nous aider à lutter contre la tristesse. Donc la tristesse de notre Seigneur Jésus-Christ qui prend sur ses épaules va nous aider à enlever notre propre tristesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de nos catholiques peuvent être, je les comprends, fortement découragés par tout ce qu'ils voient, par tout ce qui se passe un petit peu aujourd'hui autour de nous. Et on ne peut pas le leur reprocher. Hein. C'est difficile de ne pas être découragé en voyant ce qui se passe. Et c'est là où il faut se rappeler, justement, il faut se mettre en méditation lorsqu'on est un peu découragé avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant l'agonie au jardin des Oliviers, il faut voir ce sang, ces gouttes de sang qui coulent jusqu'à terre, c'est cet ange qui vient fortifier notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, on peut se poser la question, est-ce que je peux, moi, avec l'âme que j'ai actuellement, la couleur de mon âme actuelle, l'état de mon âme actuelle, est-ce que je peux venir consoler notre Seigneur Jésus-Christ, réconforter notre Seigneur Jésus-Christ, ou au contraire, est-ce qu'avec l'âme que j'ai, ce n'est pas le moment d'aller réconforter notre Seigneur, parce qu'au lieu de les réconforter, quand Dieu va voir la couleur de mon âme, il va être encore plus découragé. Oui. Donc le Sauveur, disent les pères, a dû prendre sur lui nos douleurs pour en triompher. Car ceux en qui les souffrances produisent la stupeur et l'insensibilité plutôt que la douleur n'ont point le mérite du véritable courage. Jésus a donc voulu nous apprendre à triompher de la mort et surtout des tristesses de la mort. Donc Jésus-Christ prend en quelque sorte sur son humanité toutes nos faiblesses. Il y a une très belle image que j'ai déjà expliquée plusieurs fois, et je la réexplique parce qu'elle correspond à ce sujet, dans la parabole du bon samaritain. Cet homme qui descendait de Jéricho, Jérusalem à Jéricho, et qui est tombé entre les mains de brigands, qui le détrousse, qui le laisse à moitié mort au bord du chemin. Eh bien, qu'est-ce que fait ce Samaritain qui représente notre Seigneur Jésus-Christ? bien, ce Samaritain qui représente notre Seigneur Jésus-Christ, il va nettoyer les plaies du mourant, du moribond, il va verser sur ses plaies le vin et l'huile, l'eau, le vin et l'huile, le symbole des sacrements, et puis il va placer, dit l'Évangile, l'homme à moitié mort sur sa monture, son âne. Eh bien, les pères de l'Église expliquent que cette monture, c'est le symbole de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre image, que j'aime beaucoup, que je vais utiliser d'ailleurs pour la prédication que je vais donner le 15 août pour la fête de l'Assomption cette année, par une délicatesse de la Providence, la fête de l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie, fête d'obligation en France et fête nationale pour les catholiques de la France, eh bien, cette fête tombe un dimanche. Et je vais un petit peu parler de... Oui, tout ça ce dimanche, pour montrer que le bon samaritain représente aussi notre Sainte Vierge Marie. Elle est envoyée par Dieu sur le bord du chemin pour venir s'occuper des moribonds spirituels. Je suis un pécheur, je suis incapable de me mouvoir par mes propres forces parce que j'ai offensé le bon Dieu, j'ai perdu ma colonne vertébrale spirituelle, littéralement. Alors, ta Sainte Vierge Marie vient à compassion de ma misère. Elle vient vers moi, elle commence déjà à me soigner, mais elle ne peut pas tout faire parce qu'elle n'est pas Dieu, elle est mère de Dieu, mais elle n'est pas Dieu. Et donc, elle va d'abord mettre sur moi l'eau, l'huile et le vin, et ensuite elle va m'aider à me relever et va me placer sur sa monture. Bien, la monture, encore une fois, c'est en fait la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc elle va mettre nos misères sur son Fils. Quelque sorte, son Fils va porter nos misères sur lui. Lui qui est innocent va porter nos misères de nous qui refusons de nous reconnaître comme coupables. Et ensuite, qu'est-ce que dit le texte? Le texte nous dit que le bon samaritain va conduire, donc ici c'est la Sainte Vierge, la Sainte Vierge va conduire le mourant qu'elle a placé sur la croix, va le conduire jusqu'à l'église. Donc l'auberge, avec l'aubergiste, c'est l'église. Et l'aubergiste représente notre Seigneur Jésus-Christ dans ce cas-là. Alors, Jésus donc a donc voulu nous apprendre à triompher de la mort et surtout des tristesses de la mort. Donc il a pris sur lui nos douleurs pour triompher. Vous êtes affligé, Seigneur, disent les pères, mais ce n'est pas de vos blessures, ce sont des miennes. C'est des miennes, car c'est à cause de nos péchés qu'il a été blessé. Peut-être aussi est-il triste de ce que, depuis la chute d'Adam, la mort est la seule voie par laquelle nous puissions sortir de ce monde. Ajoutons qu'il n'est pas moins vraisemblable que sa tristesse eût pour cause les châtiments que le crime sacrilège de ses persécuteurs devait attirer sur eux. Rappelez-vous cette phrase de l'Évangile où notre Seigneur Jésus-Christ a pleuré sur la ville de Jérusalem. Il considère du haut d'une colline la ville de Jérusalem avec toute sa beauté. Il pleure sur la ville de Jérusalem parce qu'il est Dieu, il sait tout. Il sait que bientôt allait arriver la destruction de la ville de Jérusalem comme châtiment du déicide des Juifs et que la ville de Jérusalem allait être complètement détruite par Titus qui va détruire totalement la ville avec plus d'un million de morts. Vous voyez, donc c'est là où on voit les conséquences du péché. Dieu avait dans sa miséricorde prévenu les catholiques. Notre Seigneur avait dit aux catholiques que quand ces temps arriveraient, il faudrait qu'ils quittent la ville, qu'ils aillent dans la montagne. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu un premier siège de Jérusalem et qui était un avertissement. Puis Titus est revenu et cette fois-ci c'était le deuxième siège avec la destruction de la ville. Mais entre les deux sièges, les catholiques avaient le temps de s'enfuir et sont allés se réfugier dans la montagne parce qu'ils se rappelaient la prédiction de notre Seigneur. On est en 70 ou 71 après notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait que les catholiques vont être épargnés dans cette destruction de la ville de Jérusalem. Ils ont été épargnés parce qu'ils n'ont pas participé à la mort du Christ. Par contre, les juifs qui étaient coupables, pas tous, mais au moins dans une certaine mesure, ils étaient coupables de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'ils l'avaient demandé, que son sang retombe sur nous et sur nos têtes, la tête de nos enfants. Bien, Dieu les a pris au mot, et ils vont devoir payer très cher ce crime de déicide et cette destruction de la ville de Jérusalem. Autre citation de Saint Bède le Vénérable, pardon, en bas de la page 13. Il ne faut point attribuer cette sueur à la faiblesse. Une sueur de sang est contre nature. Mais reconnaître plutôt l'enseignement que notre Seigneur a voulu nous y donner. C'est qu'il avait obtenu l'effet de sa prière qui était d'épurer par son sang la foi de ses disciples encore entachés des imperfections de la fragilité humaine. Donc il y a une purification, donc les anciens purifiaient les corps avec des sangsues, avec pour sortir le corps de l'organisme en quelque sorte. On faisait des incisions, c'est douloureux d'ailleurs. Dans la nature, c'est ce qu'on appelait des saignées au Moyen-Âge. Les médecins qui ne connaissaient pas très bien encore la médecine, c'était vraiment les débuts, eh bien, allaient faire des saignées sur les muscles, sur la peau, pour faire sortir du sang, faire sortir les humeurs et apporter un peu d'aide aux malades. Je ne sais pas si c'est très efficace, mais ici, c'est la même image, sauf que c'est spirituel et temporel à la fois. Donc, il y a véritablement une hématodrosis, donc une sueur de sang, mais cette sueur de sang qui quitte l'organisme humain de notre Seigneur Jésus-Christ, qui tombe en goutte de sang, en cloque de sang sur la terre, représente la purification, justement, qui est faite. C'est un symbole de l'épuration de notre sang par la foi. La foi doit épurer, nous épurer comme l'argent est épuré et purifié cette fois au feu. Alors, selon Gabriel Vasquez, donc cet ange, je vous l'ai déjà dit, serait Gabriel. Les pères ne sont pas tous d'accord sur ce sujet, mais cet ange était Gabriel car son nom signifie la force de Dieu. L'homme de Dieu et son rôle consistant à réconforter les faibles, les affligés, les craintifs. Il réconforta le Christ non pas en renforçant sa faiblesse, mais en exaltant sa force. Donc Gabriel représente la force de Dieu, comme Raphaël représente la médecine de Dieu. Michael, ça veut dire qui est comme Dieu. Donc ici, c'est la force de Dieu. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ se fait tout petit, dans le sein de sa mère, et ce fils est encore misérable, comme il est écrasé comme un ver de terre. Il faut relire les magnifiques passages. Il y a plusieurs passages qui annoncent ces textes. D'abord, le passage d'Isaïe, un très beau texte dans Isaïe, qui annonce la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. De mémoire, je crois que c'est au chapitre 53. Qui annonce justement toutes ces misères qui vont tomber. Également le psaume 21 de David, écrit 1000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ. Pour rafraîchir votre mémoire, voilà ces textes. Donc psaume 21, je vous cite certains passages. Donc c'est un psaume écrit par le roi David, 1000 ans avant notre Seigneur. Et tous les juifs connaissaient ce psaume par cœur. Et notre Seigneur va répéter ce psaume sur la croix avant de mourir. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous délaissé? Regardez-moi, pourquoi m'avez-vous abandonné? Les paroles de mes péchés sont loin de mon salut. Mon Dieu, je crierai pendant les jours et vous ne m'exaucerez pas. Et pendant la nuit, ce n'est point à moi une folie. Mais vous, vous habitez dans un sanctuaire, vous, la louange d'Israël. C'est en vous qu'ont espéré nos pères. Ils ont espéré et vous les avez délivrés. Mais vous, ils ont crié, ils ont été sauvés. En vous, vers vous, ils ont crié, ont été sauvés. En vous, ils ont espéré, ils n'ont point été confondus. Moi, je suis un ver et non pas un homme. L'opprobre des hommes et l'abjection du peuple. Tous ceux qui m'ont vu m'ont tourné en dérision. Ils ont parlé du bout des lèvres, ils ont secoué la tête. Il a espéré dans le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il l'aime. C'est sur vous que j'étais posé en sortant de son sein. Depuis que j'étais dans les entrailles de ma mère, vous êtes mon Dieu. Ne vous éloignez pas de moi parce que la tribulation est proche, parce qu'il n'y a personne qui me porte secours. Ils ont ouvert sur moi leur gueule comme un lion ravissant et rugissant. Je me suis épanché comme de l'eau et tous mes os se sont déboîtés. Mon cœur est devenu au-dedans de moi comme une cire qui se fond. Ma force est desséchée comme un tête. Des sons de bouteille. Et ma langue, s'est attachée à mon palais et vous m'avez conduit à la poussière de la mort. Parce que des chiens nombreux m'ont environné, un conseil de méchants m'a assiégé, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os, ils m'ont même considéré et regardé attentivement. Ils m'ont eux-mêmes considéré et regardé attentivement. Ils se sont partagés mes vêtements et sur ma robe ils ont jeté le sort. Et relisez tous ces textes, et pour ceux qui travaillent un petit peu à partir de ces textes, il faut les copier là sur la Passion, c'est le moment de relire les textes de la Passion. Je vous cite également ce magnifique texte d'Isaïe qui annonce justement la passion, parlant du Christ. Il n'a ni beauté ni éclat, nous l'avons vu. Il n'avait pas d'apparence et nous l'avons méconnu. Il était méprisé, le dernier des hommes, un homme de douleur qui connaît la souffrance. Son visage était caché, il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de lui. Vraiment, il a porté nos langueurs et il s'est chargé lui-même de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme un lépreux, comme un homme frappé de Dieu et humilié. Cependant, il a été blessé pour nos iniquités, il a été brisé pour nos crimes. Le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui, nous avons été guéris par ses meurtrissures. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun s'était détourné sur sa propre voie et le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été offert parce que lui-même l'a voulu. Il n'a pas ouvert la bouche, comme une brebis qu'on mène à la boucherie, comme un agneau devant celui qui le tond. Il a gardé le silence, il n'a pas ouvert la bouche. Il portera sur lui nos iniquités. Il a livré son âme à sa mort. Il a été mis au nombre des scélérats. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et ces textes sont admirables et doivent vraiment nous faire réfléchir. Alors, continuons un peu ces commentaires. Vous pouvez aussi lire les magnifiques textes du Vendredi Saint, surtout les impropères. Je ne vais pas les relire parce que j'ai déjà souvent cité un texte du Vendredi Saint, des passages magnifiques que vous pouvez lire pour méditer ces passages-là. Ces textes que je vous cite, là, des Pères de l'Église, ont non seulement pour but de vous faire connaître l'exégèse mystique des Pères de l'Église, mais également augmenter en nous l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'à la fin de chaque cours, vous ayez un peu plus l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qu'au début du cours, sinon je perds mon temps. Donc il faut méditer ces textes en lisant ces textes de la Passion, ben, méditer sur la liturgie de la Passion. En bas de la page 13, il y a un beau texte également de Saint Augustin. Donc selon Saint Augustin, cette sueur sanglante qui accompagne la prière du Sauveur figurait encore que tous les martyrs découleraient de son sang, de son corps sacré qui est l'Église. Donc selon Gabriel Vasquez, j'avoue que j'ignore qui il est, cet ange était Gabriel, car son nom signifie la force de Dieu, l'homme de Dieu, et son rôle consistait à réconforter les faibles, les affligés, les craintifs, et il réconforta le Christ non pas en renforçant sa faiblesse, mais en exaltant sa force. J'ai déjà cité ce texte. Selon Louis Dupont, Gabriel était le légat, le messager de l'économie du Christ, comme pour l'incarnation et les 70 semaines de Daniel qui annonçaient le temps de la nativité du Christ. On pourra trouver plusieurs fois cet ange. Il y a peu d'anges dont on connaisse les noms. Il y a entre autres Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël, ces trois archanges. Alors passons à la page 14 en haut. Donc Saint Thomas d'Aquin, dans sa somme, met ses paroles sur les lèvres de l'archange Saint-Gabriel. « Ô Seigneur, le plus brave des hommes, votre prière est des plus acceptables pour votre Père, car malgré la crainte naturelle de la mort, vous êtes parfaitement résigné à la volonté de votre Père pour accepter cette mort voulue par lui pour vous. » Oui, c'est à tel point que beaucoup dans l'histoire de l'Église, on voit à quel point cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ, à la fois a encouragé la piété de millions de personnes, mais en même temps a découragé certaines personnes. Certaines personnes ne sont pas pu supporter ça. Et j'ai eu parfois des fidèles qui étaient un peu comme ça, des gens qui ont fait la retraite avec moi, qui me disaient, même sur l'abbé, moi, je ne peux pas méditer sur la passion. Dans l'exercice de Saint-Ignace, en 5 jours, il y a 4 méditations sur la passion. Et quand je peux prêcher les 5... c'est ça, dans la prédication des exercices, en 5 jours, il y a 4 méditations sur la passion. Quand je peux prêcher les 6 jours, il y en a même jamais 6 ou 7. Et beaucoup de gens me disaient, monsieur l'abbé, c'est une boucherie, je ne peux pas méditer là-dessus. Mais il faut se mettre dans la boucherie. C'est vrai que c'était une boucherie. C'est épouvantable. Mais ceci nous aide à comprendre la gravité du péché. C'est en méditant sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est en voyant notre Seigneur Jésus-Christ qui déjà a besoin du réconfort d'une de ses créatures, à savoir l'ange Gabriel, qui notre Seigneur qui accepte l'hématodrosie, sa sueur de sang, alors qu'il n'a pas encore été touché par ses persécuteurs. Ceci nous aide à comprendre la gravité du péché, parce que c'est moi qui provoque cela. À chaque fois que je commets une faute grave, eh bien je recrucifie notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de mon âme. Pour oublier ça, avançons dans Commentaire des Pères de l'Église en haut de la page 14. Poussez de côté cette horreur et cette souffrance que vous avez volontairement acceptée et reprenez votre force de volonté pour venir affronter bravement l'œuvre de la rédemption des hommes, par laquelle vous manifestez la gloire de Dieu, réjouissez les anges, rachetez les hommes de l'enfer pour les ramener aux gloires du ciel. Supportez la croix pour la joie qui vous est offerte comme auteur et instrument parfait de la foi de beaucoup. Et c'est aussi une façon de célébrer la Sainte Messe. Il faut comprendre que la Sainte Messe n'est rien d'autre que le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Donc, quand le prêtre fait la génuflexion au moment de la transsubstantiation, et qu'il élève la Sainte Hostie, puis après élève le précieux calice qui contient le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, bien il faut vraiment s'imaginer au pied de la croix et être avec Saint Jean, Sainte Marie Madeleine, être Sainte Vierge Marie, levant les yeux vers la croix et voyant notre Seigneur Jésus-Christ exsangue sur la croix qui est en train de rendre l'âme. C'est ça la messe. La messe est le renouvellement du sacrifice de la croix. Voilà ce qui a été détruit avec la nouvelle messe. Avec la nouvelle messe, c'est tout ce côté propitiatoire qui est détruit. C'est que les protestants nient la propitiation. Et donc, l'église de Vatican II, qui est tout simplement une église protestante, hein, c'est rien d'autre que ça, eh bien, ils nient évidemment la propitiation. Donc, pour eux, la messe, c'est simplement un repas. On fait mémoire de ce que notre Seigneur a fait pour nous. Donc, il faut méditer là-dessus. Donc, notre Seigneur, encore une fois, c'est Saint Bernard qui parle, ne se contentez pas des larmes de ses yeux, mais par les larmes de son sang et de son corps tout entier, souffrez et effacez nos péchés. Donc le Christ n'a pas pleuré simplement, dit Saint Bernard, avec ses yeux, mais avec tous ses membres, qui sont l'Église, pour qu'il soit purifié par ses larmes. Selon Saint Irénée, le sang du Christ a une voix qui parle davantage que celle d'Abel. Le sang d'Abel demandait vengeance, celui du Christ demande la miséricorde. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre. La toute-puissance de Dieu est davantage manifestée, ou se manifeste principalement par le pardon et la pitié, que par des choses extraordinaires comme la création du monde. Donc Dieu est plus grand, disent les pères, quand il pardonne et qu'il manifeste ce pardon et sa pitié en pardonnant aux pécheurs se repentant, que quand il crée le ciel et la terre. C'est quelque chose qu'on a bien du mal à comprendre. Mais la miséricorde, c'est quelque chose de si difficile. Je vous ai souvent cité cette anecdote que nous donnait Monseigneur Lefebvre, qui m'avait beaucoup frappé au séminaire. Monseigneur Lefebvre souvent nous parlait de son temps en Afrique. Il avait été longtemps missionnaire, simple missionnaire en Afrique, au Gabon, à Lambaréné, à Mdjolé, dans ces régions des lacs, au Gabon. J'ai pu aller là-bas, j'ai pu prêcher les exercices de Saint-Ignace aussi au Gabon dans mon jeune temps. Et Monseigneur Lefebvre nous disait que les petits noirs à qui il enseignait le catéchisme avaient mal, il faut comprendre ça. Il nous disait, lorsque je parlais aux petits noirs qui venaient suivre le catéchisme, aux enfants noirs qui venaient suivre le catéchisme, je parlais de la grandeur de Dieu, Créateur du ciel et de la terre, qui est un grand roi, à qui tout le monde entier doit respect et obéissance. Il n'y avait aucun problème, parce qu'ils voyaient ça dans leur propre roi. C'était des tribus qui étaient sous un roi humain, qui avait en général beaucoup de défauts d'ailleurs, mais ils comprenaient l'autorité, parce qu'ils avaient l'autorité des parents au-dessus d'eux, ils avaient l'autorité du roi, du chef de la tribu, du roi attelé sur place, et ils comprenaient très bien ça. Mais Monseigneur a ajouté, lorsque, au contraire, j'essayais d'expliquer à ces mêmes enfants que notre Seigneur Jésus-Christ pardonnait aux pécheurs repentants, là ça ne passait plus. Il nous disait, les enfants éclataient de rire, ils trouvaient ça complètement ridicule. Parce que dans leur esprit, avec la formation familiale et ethnique qu'ils avaient, dans leur esprit, un roi qui pardonne, c'est un roi qui est faible. Or, le roi, par définition, n'est jamais faible. Le roi, c'est celui qui châtie ses ennemis et qui les jette au crocodile. Voilà, ça c'est un roi. Mais un roi qui pardonne à un prisonnier, c'est pour eux, c'est de la faiblesse. Et un roi qui pardonnerait dans ces conditions-là deviendrait un être méprisable. Pour cela que les premiers missionnaires dans ces pays-là ont beaucoup, beaucoup de mal à renverser ces coutumes pour leur expliquer la grande miséricorde de Dieu pour le pécheur repentant. Vous voyez? C'est très difficile de changer certaines habitudes. Et quand on parle avec les missionnaires, j'ai été missionnaire moi-même, bon, j'ai moins rencontré ces difficultés. Moi, j'ai plutôt été missionnaire en Amérique centrale. J'ai fait aussi des missions dans d'autres parties du monde, mais surtout en Amérique centrale, la situation est un peu différente. Mais quand on lit, par exemple, les récits des premiers missionnaires en Inde, c'était aussi très, très, très compliqué, parce que là-bas, c'est la religion hindouiste, et c'est une religion qui n'a aucune miséricorde. La religion des hindous est une religion sans miséricorde. C'est une des religions les plus sales du monde. Parce que là, pour eux, il ne faut surtout pas manifester la miséricorde à l'égard du pauvre. Parce que le pauvre, il est pauvre, mais par sa pauvreté, il fait son karma, dit-il. Il croit en mettant en psychose une renaissance dans une nouvelle vie après la mort. Et donc, quelqu'un qui mendie son pain, qui est miséreux dans la rue, qui n'a pas de toit, qui n'a pas de nourriture, qui meurt de faim, qui est couvert de haillons, couvert d'excréments, qui est couvert de saleté, il ne faut surtout pas l'aider parce qu'il fait son karma. Et si vous l'aidez, si vous manifestez une miséricorde humaine à son égard, vous allez augmenter son karma. Ce karma, c'est sa pénitence. Il doit faire pénitence sur la terre parce que s'il fait bien pénitence sur la terre, dans sa misère, dans son annihilation en quelque sorte, eh bien, il va être recréé dans une nouvelle vie par la métempsychose à une caste supérieure. Le système des castes dans les pays hindous est totalement imposé à la miséricorde. Parce que les castes supérieures ont un mépris souverain pour les castes inférieures, mais en même temps, ils enseignent, ça ne les gêne pas trop d'ailleurs, que celui qui est en caste inférieure pourra, par la métempsychose, ressusciter dans une nouvelle vie, dans une caste supérieure à celle qu'il a vue sur la terre la première fois. Donc c'est très très difficile de pratiquer la miséricorde pour eux, ils ne comprennent pas ça. C'est pour ça que je ne connais pas l'Inde, mais d'après ce que j'ai compris en parlant avec des confrères qui y sont allés, il y a des miséreux partout dans les rues, parce que justement, pour eux, c'est une partie de la vie de tous les jours, il ne faut surtout pas chercher à enlever ça. Oui. Donc c'est une belle phrase des pères. Le sang d'Abel demandait vengeance après qu'il eut tué son frère, après qu'il eut été tué par son frère Caïn. Celui du Christ, au contraire, demande la miséricorde. Encore une phrase de saint Augustin. Du corps du Christ tout entier vont procéder les passions des martyrs. Le sang du Christ coule sur la terre pour montrer que les hommes doivent être ramollis par lui. Donc, de même que l'eau ramollit une terre dure, de la même façon, la passion du Christ, le sang du Christ qui coule de la croix va ramollir notre âme et faire d'un cœur de pierre un cœur de chair. Donc, comprenons cela, que la toute-puissance de Dieu se manifeste principalement par le pardon et la pitié. J'insiste souvent là-dessus dans les conférences, dans les sermons. C'est saint Alphonse de Ligorie qui disait que c'est une plus grande preuve de la puissance du Christ que de pardonner un pécheur repentant, que de créer le ciel et la terre. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de facilité à comprendre la puissance du Christ quand on parle de la création du ciel et de la terre, ça on comprend. Mais on a un mal fou à comprendre que pardonner un pécheur repentant, c'est encore plus grand. Avançons avec les versets 47 à 53 du chapitre 22 de saint Luc. Comme il parlait encore, voici qu'une troupe parut. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle, et il s'approcha de Jésus pour le baiser. Jésus lui dit, « Judas, vous trahissez le Fils de l'homme par un baiser ?» Ceux qui étaient autour de lui, voyant ce qui allait arriver, lui dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Et Jésus, prenant la parole, dit, « Restez-en là. » Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Puis Jésus dit à ceux qui étaient venus avec lui, vers lui, princes des prêtres, magistrats du temple et anciens, « Vous êtes sortis avec des épées et des bâtons comme contre un brigand. Quand j'étais tous les jours avec vous dans le temple, vous n'avez pas étendu les mains sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » On voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde extraordinaire, va encore faire des miracles jusqu'au dernier moment. Non seulement il a fait des miracles pendant tout le temps de sa vie publique, ses 3 années de vie publique, mais juste avant sa mort, il fait encore des miracles. le premier miracle. Dans d'autres évangiles, il est précisé que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a rencontré Judas qui venait le trahir et qu'il a dit « Qui cherchez-vous ?» qu'ils ont répondu « Judas, Judas de Nazareth », notre Seigneur répond « C'est moi ». Quand il lui dit « C'est moi », toute la foule nombreuse qui était venue l'arrêter, donc il y avait des princes, des prêtres, des magistrats, des anciens du Sanhédrin, etc. Et tout le monde tombe paralysé. Imaginez cette vision extraordinaire entre le Seigneur Jésus-Christ à la porte, à l'entrée du jardin des Oliviers, qui contemple ces créatures révoltées contre lui, paralysées devant lui. Il aurait pu tous les exterminer à ce moment-là. Il les contemple. Et cette paralysie qui est miraculeuse, évidemment, pour les aider à comprendre qu'il est vraiment Dieu, mais elle va durer plusieurs minutes, dit la tradition. Et là, deuxième miracle, avec Malchus, le serviteur du grand prêtre. Ici, Saint-Luc ne donne pas le nom, mais dans d'autres évangiles, on sait que c'était Malchus, serviteur du grand prêtre. Il coupe l'oreille droite. Et derrière l'oreille, il y a un gros tronc artério-veineux, tronc jugulaire, qui vient de l'aorte et qui amène le sang frais au cerveau. Le cerveau est une des parties du corps humain les plus irriguées. C'est pas la plus irriguée, la partie la plus irriguée du corps humain pour les femmes, c'est l'utérus, qui est une véritable éponge de sang. Mais juste après, c'est le cerveau. Et donc, juste derrière l'oreille, il y a ce tronc jugulaire. Et quand quelqu'un se fait couper l'oreille, c'est le cas de ce serviteur, donc Saint-Pierre dormait, il se réveille, il saute dans la mêlée parce qu'il voit notre Seigneur Jésus-Christ en difficulté, et il fait un geste courageux, il sort le glaive, puis tape dans la masse. Il tape dans la mêlée, puis il coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre Malchus. Et quand on coupe l'oreille, en général, on atteint le tronc veineux, artério-veineux qui est derrière. Qui est derrière l'oreille. Et si cette artère est coupée, on se vide de son sang quelques secondes, littéralement, à cause de la puissance de la pression cardiaque dans ces grosses artères. Et qu'est-ce que va faire notre Seigneur? Vous voyez? Donc, quand on explique ces passages aux enfants, il y en a parfois qui ont des réactions un peu compréhensibles, humaines, qui disent « Oh, pourquoi notre Seigneur, il a guéri l'oreille de Malchus? Moi, j'aurais été lui, j'aurais laissé crever. Voilà, il n'avait pas volé parce qu'il a attaqué notre Seigneur. C'est pas bien, c'est un méchant, il fallait qu'il meure. Ben non, c'est pas ce que fait notre Seigneur. Il touche l'oreille et le guérit. Une chirurgie instantanée de notre Seigneur, deuxième miracle. Alors, les pères de l'Église se sont posé la question, j'en ai déjà souvent parlé. Pourquoi ces miracles? Réponse, pour essayer de convertir Judas. Notre Seigneur essaye jusqu'au dernier moment d'ouvrir le cœur de Judas pour que Judas demande pardon de sa prévarication, de sa trahison, et puisse lui aussi sauver son âme, parce qu'il avait une âme à sauver comme tout le monde. Mais malheureusement, Judas est tombé dans un péché contre le Saint-Esprit, le désespoir de son propre salut, le péché de Judas, et ça il faut insister à longueur de texte, parce que c'est capital pour nous à comprendre. Le péché de Judas, c'est n'avoir pas cru en la toute-puissance de la miséricorde de Dieu. Il a voulu limiter la miséricorde de Dieu, et en limitant la miséricorde de Dieu, Judas a limité la divinité, puisque qui dit limite en Dieu prétend qu'il n'est pas Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, sa miséricorde est-il limitée? En gros, Judas a dit « Mon péché est trop grand pour être pardonnable ». Donc il est tombé dans le découragement le plus complet, il est tombé dans la tristesse la plus complète. Ça engendrait les péchés graves, les plus graves contre l'espérance, le désespoir de son salut, et ça l'a conduit à aller se pendre. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a eu auparavant cette phrase terrible, terrible. « Il aurait mieux fallu pour cet homme qu'il ne fût point né ». Prions le bon Dieu pour que notre Seigneur Jésus-Christ n'ait jamais à prononcer cette phrase pour chacun d'entre nous. Alors, nous sommes en bas de la page 14. J'avance pas très vite, mais il y a tellement de choses à expliquer là. Une citation de saint Ambroise. Et lui dit, vous trahissez par un baiser, c'est-à-dire vous choisissez le symbole et le gage de l'amour pour me faire le plus cruel outrage. Et c'est avec le plus doux signe de la paix que vous me donnez le coup de la mort. Vous, mon serviteur, vous trahissez votre Seigneur. Vous, mon disciple, vous trahissez votre Maître. Vous, que j'ai choisi pour apôtre, vous trahissez le Dieu, auteur de votre vocation. On peut rajouter, vous que je viens d'ordonner prêtre,
quelques heures, il y a quelques heures seulement, le soir du jeudi saint, je vous ai ordonné prêtre, je vous ai consacré évêque, et là, vous êtes là pour amener les ennemis, mes ennemis, en face de moi pour qu'ils m'exterminent, qu'ils me tuent. Vous voyez? Il faut vraiment méditer sur ces choses-là. Combien de fois est-ce que moi aussi, on peut méditer sur ce baiser de Judas, hein? Combien de fois est-ce que moi aussi j'ai reçu ou donné un baiser que j'avais ni le droit de recevoir, ni le droit de donner, hein? Une personne qui n'était pas mon épouse. Bon, ben, est-ce que, combien de fois est-ce que j'ai offensé Dieu, peut-être gravement, bon, ben, en faisant commettant des péchés contre la pureté qui sont souvent associés à ces baisers impurs qui nous amènent dans l'horreur du péché d'impureté, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ a été trahi par un baiser. Et a été trahi par un prêtre, hein, pas oublier ça. Judas est prêtre, et toute la tradition nous dit que Judas non seulement a été ordonné prêtre le soir du jeudi saint à la chambre de haute de Jérusalem, là où s'est placée la première messe de notre Seigneur, non seulement il a été ordonné prêtre, mais il aurait été consacré évêque, hein, attention. Ce n'est pas de la divinité, mais l'humanité dont les ennemis de Jésus vont se saisir. Notre Seigneur, pendant sa passion, va littéralement cacher sa divinité. Ça veut dire qu'elle disparaisse. Attention, il a toujours la vision béatifique, c'est le plus grand mystère de la passion. Comment est-il possible pour notre Seigneur de souffrir pareillement, d'avoir l'hématodrosis, d'avoir toutes ces souffrances épouvantables et en même temps d'avoir la vision béatifique? Et c'est pour ça que beaucoup d'hérétiques ont dit, mais puisqu'il avait la vision béatifique, donc ses souffrances pendant la passion ne sont qu'apparentes. Il donnait l'impression de souffrir, mais en fait, il ne souffrait pas. C'est faux. Notre Seigneur Jésus-Christ était parfaitement homme. Étant parfaitement homme, il a souffert, parce que justement, il avait une nature humaine encore plus sensible que la nôtre, d'ailleurs. Ce n'est pas la divinité, mais l'humanité dont les ennemis de Jésus vont se saisir. Et cependant, ce qui rend plus odieuse l'ingratitude du traître disciple, c'est d'avoir trahi celui qui, étant le Fils de Dieu, a voulu devenir pour nous le Fils de l'homme. Et Jésus semble lui dire, ingrat, c'est pour vous que j'ai pris cette humanité que vous trahissez avec tant d'hypocrisie. Essayez de voir dans votre méditation le regard que notre Seigneur Jésus-Christ a dû jeter à Judas, son disciple, son prêtre, son évêque. Judas, c'est par un baiser que vous me trahissez. Il a dû avoir le même regard de notre Seigneur Jésus-Christ alors qu'il quittait la maison d'Anne pour aller dans la maison de Caïphe, le grand prêtre. Un peu après, dans la passion, on verra ça plus tard, il sort de la maison d'Anne pour aller vers la maison de Caïphe, et son regard croise le regard de Saint-Pierre, qui vient trois fois, il vient juste de renier notre Seigneur. Une petite servante lui dit, « Vous, je vous reconnais, vous étiez au jardin des Oliviers, vous êtes un des disciples de notre Seigneur. » Et trois fois, le futur chef de l'Église, le plus grand des apôtres, Saint-Pierre, dit à cette petite bonne femme, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez, je ne suis pas un de ses disciples, je ne le connais pas. » Et notre Seigneur, à ce moment-là, sort, le coq chante deux fois. Et Saint-Pierre, couvert de honte, va se rappeler la parole de notre Seigneur. Avant que le coq n'ait chanté deux fois, tu m'auras trahi trois fois. Et notre Seigneur a dû regarder Saint-Pierre à ce moment-là. Mais Saint-Pierre, contrairement à Judas, va être bouleversé par ce regard de notre Seigneur. Il va sortir et pleurer amèrement, et passer sa vie à pleurer. Eh bien, si Judas, lui aussi, avait été bouleversé de la même façon par le regard que notre Seigneur Jésus-Christ a dû donner à Judas lorsqu'il s'est fait embrasser par lui au moment de l'arrestation, eh bien, on aurait aujourd'hui un saint Judas. Eh oui. Il faut méditer là-dessus, hein. Tout dépend de moi, tout dépend de ma réponse à la grâce, soit de devenir un Judas, soit de devenir un Judas, soit de devenir un Saint-Pierre. Hein. Judas et Saint-Pierre, tous les deux commis le même péché, péché d'apostasie, et Judas est en enfer, Saint-Pierre est au ciel. Tout dépend de notre réponse, non? Vous reprenez cette phrase des pères. Ce qui rend plus odieuse l'ingratitude du traître disciple, c'est d'avoir trahi celui qui, étant le Fils de Dieu, a voulu devenir pour nous le Fils de l'homme. Ingrat, dit Jésus, c'est pour vous que j'ai pris cette humanité que vous trahissez avec tant d'hypocrisie. En guérissant la sanglante blessure de cet homme, donc il guérit l'oreille droite du serviteur du grand prêtre Malchus. Notre Seigneur nous révèle ces divins mystères. Il nous montre la serviteur du prince de ce monde réduit en servitude, non par la condition de sa nature, mais par sa faute. Il recevra une blessure à l'oreille parce qu'il n'a point voulu écouter les enseignements de la sagesse. Mais cette surdité spirituelle qui nous empêche d'ouvrir la porte de notre âme à la foi. La foi est transmise par la parole. Bon, certes, Dieu peut passer au-dessus de cette parole et donner la foi directement dans l'âme, mais la foi est en général enseignée par le catéchiste qui enseigne au catéchisé, qui va enseigner la parole de Dieu. Si Pierre lui-même a voulu frapper cet homme à l'oreille, c'est pour nous enseigner que celui qui n'a point l'oreille du cœur ouverte pour les saints mystères ne mérite point d'avoir l'oreille du corps qui en est la figure. Donc cette oreille qui est détachée de la tête de Malchus représente justement ceux qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ va recoller cette oreille, ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit, pour bien montrer justement que un païen qui ne sait pas écouter peut se convertir et après sa conversion écouter la parole de Dieu et donc recevoir la vertu de foi. Pourquoi seulement les pères est-ce Pierre plutôt qu'un autre disciple? Même tout simplement parce qu'il a reçu le pouvoir de lier et de délier. C'est pour cela qu'il coupe avec le glaive spirituel l'oreille intérieure de celui dont l'intelligence est rebelle aux divins enseignements. Donc notre Seigneur qui avec son glaive coupe l'oreille représente la purification provoquée par le glaive spirituel pour purifier l'intelligence et permettre à cette intelligence de recevoir la foi. Mais le Seigneur rend aussitôt à cet homme, Malchus, l'usage de l'ouïe pour nous apprendre que ceux-mêmes qui ont été blessés, scandalisés par sa passion, peuvent parvenir au salut s'ils veulent se convertir, parce qu'il n'y a point de péché qui ne puisse être effacé par la puissance mystérieuse des sacrements de la foi. Oui. Ça arrive souvent par les exercices Saint-Ignace, quand on prépare des confessions générales. Les confessions générales, privées bien sûr, mais générales pour tous les péchés de la vie passée ou une partie de la vie passée, c'est une grosse épreuve, surtout pour ceux qui font la retraite pour la première fois. Il y a beaucoup de travail, parfois 2 jours de travail pour arriver à faire cette confession générale. Et souvent, des gens qui se convertissent ont une vie passée assez douloureuse. C'est pénible sur le plan moral et il se décourage. Monsieur l'abbé, j'ai pas encore terminé le premier commandement dans ma préparation de confession. J'ai déjà 3 pages de péché. Monsieur l'abbé, je fais quoi maintenant? Jamais je vais y arriver. Il faut encourager les gens. Il faut encourager les gens. J'ai connu des gens qui avaient une telle contrition, c'est les femmes. Ils pleurent beaucoup plus facilement que les hommes, qui sont plus sensibles que les hommes, qui étaient incapables de faire cette confession générale. Elle pleurait trop au confessionnal. J'étais obligé de leur dire, bon, je sais que vous avez bien fait la retraite, je sais que vous avez bien suivi cette retraite, que vous avez bien fait toutes les méditations de préparation à la confession générale, que vous regrettez vos péchés. Mais écoutez, je vous pardonne tous vos péchés qu'ils ont inscrits sur ce papier. Là, vous n'êtes pas capable de venir, voilà, vous me donnez, je vais vite le lire rapidement, j'essaie de lire ces papiers. Et puis, quand même si je ne peux pas arriver à lire ces papiers, parce qu'ils sont souvent gribouillés un peu n'importe comment, pour que la discrétion demeure, que personne ne puisse lire ses papiers, eh bien, je dis, écoutez, ne vous inquiétez pas, regrettez tous ces péchés du fond du cœur, je vous absous pour tous les péchés qui sont inscrits sur ce papier, parce que je sais que vous regrettez tous ces péchés. Et alors, donc il n'y a point de péché qui ne puisse être effacé par la puissance mystérieuse du sacrement de la foi. Et les sacrements de la foi, surtout le sacrement de la Sainte Eucharistie et le sacrement de pénitence. Et donc il faut vraiment méditer sur ces choses-là. Alors, on va avancer un petit peu encore. J'ai encore quelques minutes, pas beaucoup là. Non, je ne suis pas allé très vite aujourd'hui, je voulais terminer ce chapitre 22, mais je ne vais pas y arriver. Est-ce qu'on peut? Saint Bède le Vénérable, page 15. Ce serviteur est la figure du peuple juif, réduit injustement en servitude par le prince des apôtres, le prince des prêtres, et qui, pardon, dans la passion du Sauveur, perd l'oreille droite, c'est-à-dire l'intelligence spirituelle de la foi, de la loi. Donc c'est la surdité spirituelle qui empêche la foi de rentrer dans l'âme. Cette oreille est coupée par le glaive de Pierre, non que cet apôtre ôte le sens de l'intelligence à ceux qui en font un bon usage, mais il le retranche aux âmes négligentes qui méritent de le perdre par un juste jugement de Dieu. Certaines personnes deviennent sourdes, muettes, aveugles, paralysées en conséquence de leur péché. Il y a des aveuglements, des cécités spirituelles, il y a des surdités spirituelles, des mutismes spirituels, des parésies, des cécités spirituelles, des paralysies spirituelles. Et rien de pire qu'une paralysie spirituelle. Où je ne suis plus capable d'ouvrir mes oreilles à l'enseignement divin, je suis plus capable de parler de la foi catholique pour transmettre ce que je dois transmettre à mes enfants. Je vois plus rien, je me décourage complètement parce que je n'ai plus l'usage des yeux de mon âme et je suis complètement paralysé, je peux plus me déplacer par moi-même. Pour aller me confesser. Cependant, la bonté divine rétablit dans son premier état l'oreille droite de ceux qui, parmi le peuple juif, ont embrassé la foi. Dieu merci, beaucoup de juifs vont se convertir. Et même jusqu'au bout, la dernière conversion, c'était le bon larron qui va se convertir, le centurion qui a percé le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Longin va aussi se convertir, le bon larron va se convertir, va devenir Saint Dismas. Donc ne nous décourageons jamais. Voilà, on va arrêter là. J'ai encore quelques versets à expliquer pour terminer ce chapitre 22. Tant pis, je ne vais pas aller très vite, mais on fait ce qu'on peut. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.